le diable et les démons existent. Ce n'est pas une manière habituelle de commencer une prédication dans une église, n'est-ce pas? Alors, c'est peut-être pas un scoop pour vous si vous croyez en Dieu, que vous êtes coutumier du message de la Bible et si vous croyez qu'elle dit la vérité. Mais pour notre monde moderne, scientifique, rationaliste, c'est carrément choquant. Encore pire que croire en Dieu, croire que le diable existe, c'est dépassé. Pour nos contemporains en Occident, c'est une vision du monde simpliste, naïve, une vision pré-scientifique enseignée par quelques religions obscurantistes et quelques cultures archaïques. On a évolué depuis. Eh bien oui, maintenant que l'homme connaît parfaitement le fonctionnement des principes naturels, de la physique, de la biologie, du psychisme humain, de la médecine, on peut tout expliquer. On n'a pas besoin de croire qu'il existe un monde invisible avec des forces du bien et du mal. Prenez les maladies mentales. L'homme non instruit des siècles derniers avait recours aux démons pour expliquer ces phénomènes. Mais maintenant que la médecine a fait tellement de progrès dans le domaine de la psychiatrie, on n'a plus besoin de cette vision naïve et simpliste des choses. Alors plus sérieusement, il faut reconnaître qu'il y a certainement des diagnostics de possession démoniaque d'un être humain qui ont été portés de manière abusive dans l'histoire. Alors qu'aujourd'hui, on expliquerait les troubles par un diagnostic de maladie psychiatrique, comme de la schizophrénie, une bouffée délirante aiguë, un épisode maniaque, et on pourrait le soigner avec les médicaments appropriés. Mais pour autant, toutes nos connaissances scientifiques ne suffisent pas à expliquer tous les phénomènes de ce monde et toutes les expériences que l'on peut vivre. Comment expliquer l'occultisme ou le spiritisme? Comment expliquer que des gens font tourner les tables? Comment expliquer l'action des coupeurs de feu, sans faire appel à l'idée d'un monde invisible, mais agissant dans ce monde de diverses manières? On ne peut être que frappé par l'attitude de nos contemporains, qui se disent si rationnels, qui nient l'existence de Dieu, du diable ou d'un monde invisible, mais qui s'empressent de lire leur horoscope le matin dans le journal, de consulter une voyante pour connaître l'avenir, et un rebouteau ou un guérisseur lorsqu'ils sont malades, pour les soigner. La Bible, qui est la révélation de Dieu, enseigne qu'il existe un monde invisible créé par Dieu. Colossiens 1 nous dit « C'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. » La Bible nous enseigne qu'il existe un monde invisible que par définition nous ne pouvons pas voir, mais qui est bien réel pour autant. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur ces réalités spirituelles, du monde invisible, sur les anges ou les démons. Mais nous avons quelques exemples d'hommes ou de femmes dans la Bible qui ont vu des anges, par exemple. On pense facilement à Marie et à l'ange Gabriel qui est venu lui annoncer la naissance de Jésus. On pourrait aussi évoquer le prophète Élisée et son serviteur dans le deuxième livre des Rois, qui était assiégé par une troupe nombreuse de cavaliers syriens et à qui Dieu ouvrit les yeux pour qu'ils voient les chevaux et les chars de feu de l'armée de Dieu qui les entouraient et les protégeaient. Alors globalement, le monde invisible reste invisible, mais visible par ses effets, un peu comme le vent. Et on ne voit pas le vent, mais le vent existe bel et bien parce qu'on le voit par ses effets lorsqu'il nous décoiffe, on a quelques exemples de vent, ou qu'il déracine un arbre, et on sait que le vent existe. Et bien la Bible nous présente deux mondes visibles. Dieu et ses anges d'un côté, Satan et ses démons de l'autre. Et le texte que l'on va lire aujourd'hui témoigne de la réalité de l'existence de ces deux mondes et d'un véritable affrontement, d'une lutte, d'un combat qui les oppose. Et un combat dont nous ne sommes pas spectateurs, mais dont nous sommes acteurs. Cela vous surprend peut-être, mais vous verrez que le texte que nous allons lire aujourd'hui dans l'évangile de Luc nous enseigne qu'au niveau spirituel, la neutralité n'existe pas. Au niveau spirituel, la neutralité n'existe pas. Lisons donc un passage de l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 14 à 23. Luc 11, 14 à 23. C'est bon, vous y êtes? Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. On va commencer par prier. Dieu et Père, nous croyons en la vérité de ta parole. Nous croyons que tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité et que c'est utile pour nous enseigner. Aide-nous à accepter son autorité, même quand ce qu'elle nous dit nous choque d'une certaine manière, et utilise ses écrits pour nous aider à mieux comprendre le monde, à mieux te comprendre, à mieux comprendre ton amour. Amen. Alors ce passage débute par un exorcisme, c'est-à-dire que Jésus va expulser un démon qui rendait ici sa victime muette. Cet exorcisme est spectaculaire, c'est un miracle qui témoigne de l'autorité de Jésus sur les démons, sur les puissances du mal qui tiennent leurs victimes en partie captives. Jésus a accompli de nombreux miracles dans son ministère public pour attester de son autorité sur les éléments naturels, lorsqu'il calme la tempête par exemple, sa toute-puissance sur les maladies par des guérisons, sa victoire sur le diable et sur le mal par des exorcismes, et même sa victoire sur la mort par des résurrections, par exemple son ami Lazare. Tous ces miracles qui sont manifestes pour son victoire, ce sont des signes visibles, concrets, qui viennent accréditer le pouvoir de Jésus, qui montrent qu'il n'est pas n'importe qui. Et bien ces miracles et son enseignement séparent son auditoire en deux camps. On imagine bien, après l'épisode qui nous est rapporté dans ce passage, la foule rassemblée qui voit ce miracle objectif, authentique, et qui s'exclame pleine d'admiration. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Celui-ci doit être le fils de David. Autrement dit, il doit être le Messie que nous attendons. C'est la conclusion logique et naturelle. Et c'est ce qui nous est décrit d'ailleurs dans les récits de Matthieu et Marc qui rapportent aussi ce même épisode. Et on comprend l'admiration que suscite un tel miracle. Imaginez une personne muette depuis de nombreuses années qui d'un seul coup se met à parler. Ça force le respect, ça ne laisse pas indifférent. Mais les pharisiens sont furieux. Et en Matthieu 12, il nous est bien dit que ce sont les pharisiens qui lancent cette accusation. Ici, il nous est dit quelques-uns. Matthieu 12, il nous est bien précisé que ce sont les pharisiens. Ils sont furieux d'entendre qu'on le nomme fils de David. Et ils s'empressent de l'accuser de collusion avec le diable. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Alors les pharisiens, c'était un peu les durs de durs de la religion juive, les puristes, les gardiens du temple, qui se sont opposés au ministère de Jésus parce qu'ils ne voulaient pas croire qu'il était le Messie. C'est pour cela qu'ils lancent cette accusation, celle d'être un suppôt de Satan. Ce terme de Belzébul, il est utilisé qu'à cette occasion dans l'Écriture, mais il est très clair qu'il s'agit d'un des nombreux noms utilisés pour qualifier Satan. Le diable, le chef de l'armée des démons, le prince des démons. Satan a de nombreux noms et qualificatifs dans l'Écriture. Cela va du serpent ancien, le serpent de la Genèse, qui a corrompu le cœur des créatures de Dieu pour les faire désobéir aux règles fixées par Dieu. Ce serpent qui est à l'origine du péché, qui a introduit le péché dans le monde. Il est parfois qualifié de prince de ce monde, prince de la puissance de l'air, le malin, l'adversaire en 2 Thessaloniciens, l'ennemi en Matthieu 13, le père du mensonge en Jean 8, l'accusateur des élus en Apocalypse 12. Satan est un accusateur. Mais ici, ce sont les pharisiens qui accusent Jésus, le fils de Dieu. Ils l'accusent devant la foule d'être au service de Satan. C'est une accusation très grave. Je ne sais pas si on peut être plus insultant avec Jésus qu'en disant cela. En l'accusant d'être démoniaque. La diffamation, c'est un moyen qui est tristement efficace pour discréditer quelqu'un. Lors de la guerre froide, il suffisait aux États-Unis de dire de quelqu'un qu'il était communiste, et c'en était fini de sa réputation, de ses ambitions politiques, de son projet de carrière, que ce soit en entreprise ou au cinéma. Et en URSS, la suspicion d'être capitaliste vous envoyait directement au goulag. C'est très difficile de répondre à une telle accusation, une diffamation. Même si c'est un mensonge, ça fait perdre toute crédibilité. C'est comme si d'un seul coup, on vous lançait un sac de boue à la figure. À partir du moment où on est couvert de boue, ben on est sale et puant, et c'est difficile de revenir en arrière et de redorer son image. Et bien Jésus ici, il est gravement diffamé. Mais il reçoit une deuxième accusation. D'autres, un peu plus modérés en apparence, demandent pour qu'il se justifie d'un pareil soupçon, qu'il accomplisse un miracle. Mais un miracle qui sorte de la sphère de la banalité, de ces guérisons journalières auxquelles ils se sont habitués, vous voyez. Un signe provenant évidemment du ciel, le siège de la puissance divine. Alors, ça serait une preuve que son pouvoir est de bonne source. Vous voyez, un signe comme le feu du ciel descendant à la voix d'Élie, le livre des rois, ou le ciel qui s'arrêta dans le ciel à la demande de Josué à Gabaon, dans Josué 10. Ça en jetterait. On lui demande un signe qui n'a aucune justification, qui répond à aucun besoin réel. Alors c'était une petite habitude de demander à Jésus un signe venant du ciel. On le voit à plusieurs reprises dans les différents évangiles, et Jésus refusera toujours d'accéder à cette demande, de rentrer dans ce jeu-là. Alors la suite du passage que l'on va étudier aujourd'hui répond en fait seulement à la première accusation, celle de chasser les démons par le pouvoir de Satan. Pour ce qui est de la deuxième accusation, Jésus y répond plus loin dans la suite de ce chapitre, mais on ne va pas l'étudier aujourd'hui, vous pouvez le lire à la maison, lire cette réponse de Jésus à cette deuxième objection. Il leur dit simplement, vous n'avez pas besoin de signe dans le ciel, je suis moi-même le signe. Ma présence au milieu de vous et mon enseignement sont suffisants. Mais vous pourrez lire plus en détail à la maison. Et on voit que face à une opposition aussi forte, à une diffamation, à un blasphème, Jésus ne se laisse pas démonter. Même si ce blasphème est gravissime et qu'il entache sa réputation, il y répond point par point avec une argumentation sans faille. Je trouve que c'est vraiment une invitation pour nous à ne pas nous laisser intimider lorsqu'on nous accuse. Concernant notre foi, par exemple, qu'on se moque de nous, qu'on nous insulte ou qu'on nous calomnie même. Je trouve que c'est même aussi une invitation à se former à l'apologétique. Alors c'est peut-être un gros mot que je viens de lancer pour vous. C'est simplement la discipline théologique qui consiste à défendre de manière cohérente la foi, à répondre aux objections des personnes qui nous entourent à la foi chrétienne. Quand on vous dit « Ah mais, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans le monde ?» Il s'est peut-être endormi. Vous voyez ce genre de question qui est bien normale et naturelle. Et bien on peut apprendre à y répondre et à faire réfléchir ses détracteurs. 1 Pierre 3 nous dit « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et bien c'est ce que fait Jésus ici dans la suite du passage. On l'accuse d'être au service de Satan. Alors il répond à cette accusation avec des arguments qui vont renvoyer ses accusateurs dans leur 22. Il va presque même les ridiculiser tellement leurs accusations sont illogiques. Mais regardons la suite du texte. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Voilà la question à laquelle répond Jésus. On l'accuse d'être au service de Satan alors qu'il vient de chasser un démon, un serviteur de Satan, qui avait élu domicile dans un être humain et qui s'en était fait naître. Personne dans cette histoire ne nie que le mutisme de la personne exorcisée était lié à la présence d'un démon. Il y avait peut-être d'autres signes extérieurs qui attestaient de cette démonisation, de cette possession démoniaque de ce muet, pour que personne ne nie ce fait. En tout cas, ce n'est pas la réalité de la possession et de la délivrance opérée par Jésus qui est mis en cause, mais la source de son pouvoir de délivrance. Est-ce par le prince des démons qu'on chasse les démons ? Jésus il montre l'absurdité de cette accusation. Jésus leur répond en substance, je paraphrase, hein. Attendez les gars, vous me dites que je viens de Satan alors que je chasse Satan et ses démons. Mais c'est absurde, mais réveillez-vous. Satan ne peut pas vouloir provoquer sa propre ruine. Il ne peut pas se battre contre lui-même. Si une partie du royaume attaque l'autre partie de ce même royaume, ça devient une guerre civile. Et le royaume de Satan s'autodétruirait. Si son royaume est divisé, il va s'effondrer, s'autodétruire, s'anéantir. Et ce n'est pas son but. Et peut-être là même aussi une double ironie de la part de Jésus par l'image du royaume divisé, qui parle à des juifs. Peut-être une allusion subtile à la division du royaume d'Israël après le règne de Salomon. Le royaume a été divisé en deux. Le royaume du nord, avec le royaume d'Israël, avec comme capitale Samarie, et le royaume du sud, celui de Juda, avec Jérusalem comme capitale. Et chacun des deux royaumes avait un roi, et cette séparation a conduit justement à de nombreux conflits et à des divisions destructrices. On peut voir même ici une mise en garde contre la division qui conduit à la destruction. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et menace de s'écrouler. C'est une vérité générale que Jésus énonce là comme argument au verset 17 et qu'il applique ensuite au royaume de Satan. Mais c'est vrai aussi pour nous. L'apôtre Paul, quand il s'adresse à l'église de Corinthe, en 1 Corinthiens 1, verset 10, leur dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. » C'est pour nous une invitation à l'unité. Soyons donc unis ici, à l'église réformée évangélique de Lyon, car une division au sein du peuple de Dieu, ferait l'œuvre du diable. Cela ne veut pas dire qu'on doit toujours être d'accord sur tous les sujets et qu'on n'a pas le droit d'avoir différents avis au sein d'une église, mais on peut ne pas être d'accord et pour autant rester unis dans un même esprit et dans un même sentiment, car ce qui nous rassemble, la bonne nouvelle de l'évangile, est bien plus importante que les points secondaires sur lesquels on peut avoir des avis différents et se respecter. Alors Jésus, par sa réponse, affirme l'existence de deux royaumes distincts, opposés, antagonistes, qui ne peuvent pas s'entremêler, se mélanger. Ce n'est pas juste une image qui témoigne d'une vision manichéenne du monde séparée entre le bien et le mal, mais bien de deux royaumes, le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Il s'agit d'une réalité spirituelle, d'une réalité céleste, qui témoigne aussi d'une réalité terrestre. Dieu et Satan ne sont pas des personnifications métaphoriques du bien et du mal, ce sont bien d'authentiques personnes qui existent bel et bien et qui influencent le monde. La suite du passage, on le verra, nous montre par contre qu'il n'y a pas une égalité de pouvoir et de puissance entre les deux. Le royaume de Satan est assujetti à celui de Dieu. Satan est une créature de Dieu qui s'est rebellée contre Dieu, mais une créature quand même, avec un pouvoir limité. Le pouvoir de Satan et des démons est limité par la puissance du Seigneur, ne l'oublions pas. C'est pour cela que Luther disait que le diable reste le diable de Dieu. Le diable de Dieu. Alors, il ne faudrait pas attribuer aux forces du mal un pouvoir excessif. Mais il ne faudrait pas, à l'inverse, nier leur existence ou leur influence. Luc Ferry, qui est un philosophe et un ancien ministre, dans l'un de ses livres, cite Baudelaire qui disait du diable: sa plus belle ruse consiste à nous faire croire qu'il n'existe pas. Et Luc Ferry de conclure, tout donne à croire que cette ruse a marché, qu'elle nous a convaincus. Dans notre monde post-moderne, on se moquerait bien de vous si vous affirmiez que le diable existe. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé un jour où je parlais des coupeurs de feu justement avec un collègue médecin il y a quelques années. Les coupeurs de feu, que ce soit bien clair, c'est de l'occultisme. Ce sont des personnes qui arrivent par des formules magiques et un don ou des dons qu'ils auraient reçus à faire disparaître des douleurs d'une brûlure, par exemple. Et c'est de l'occultisme. Et j'expliquais à ma collègue médecin qui se disait croyante que si ce pouvoir ne venait pas de Dieu, c'est qu'il venait du diable. Je peux vous dire qu'elle a écarquillé les yeux, elle m'a regardé avec un regard abasourdi. Je pense qu'à ses yeux, c'était la plus grosse bêtise qu'elle entendait de sa vie. Ça a vite mis un terme à la conversation. On n'avait pas les mêmes références, on n'avait pas la même vision du monde. Donc on ne pouvait pas se comprendre, on ne pouvait pas arriver à une conclusion commune. Parce que la Bible ne présente pas le diable comme un symbole moral. Et Jésus ici ne nie à aucun moment la réalité, le pouvoir des forces spirituelles du mal. Et il présente bien le diable comme une personne et les démons comme ses serviteurs. Jésus a même été tenté en personne par le diable. Donc Jésus montre à ses détracteurs que l'accusation est absurde. Mais il leur montre aussi qu'elle est profondément injuste et que c'est de la pure malveillance. Jésus retourne leur accusation contre eux et leur rappelle que certains des leurs chassent également des démons. Par qui les chassent-ils alors? S'ils ne considèrent pas que les exorcistes juifs agissent au nom de Satan, pourquoi est-ce que ce serait le cas de Jésus? Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Jésus dévoile leur posture contradictoire et leur malveillance. Alors, des écrits non bibliques expliquent que les exorcistes juifs utilisaient des formules, les prières de Salomon, tout un cérémonial pour arriver à leur fin, avec une efficacité relative, puisque dans la suite du passage, il est question d'un esprit impur qui sort et qui revient avec sept autres esprits plus méchants que lui qui réinvestissent la victime, enfin, etc. Jésus, lui, il agissait différemment. Il ne faisait pas appel à un pouvoir ou à des formules magiques. Il ordonnait aux démons de sortir, et ils sortaient. il délivrait les démons, les démonisés, pardon, de sa propre autorité, avec sa propre puissance. Cela nous montre à quel point Satan est assujetti avec Dieu, à quel point il est soumis à Dieu. On voit là la puissance de Jésus, pour qui il suffit de lever le petit doigt pour que Satan abandonne sa victime. Il lui suffit de lever le doigt de Dieu, pourrait-on dire. Jésus leur explique finalement la vraie origine de son pouvoir, qu'il chasse les démons par le doigt de Dieu. C'est la seule conclusion possible. Si je chasse les démons avec autorité, c'est que je suis revêtu de la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus dit, et c'est d'une logique implacable, c'est d'une simplicité biblique. Jésus leur dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Le roi est parmi vous et manifeste sa puissance en montrant qu'il peut lier Satan. Il leur dit en fait qu'il est Dieu lui-même. Le royaume de Dieu n'est pas une idée purement spirituelle ou une catégorie morale. C'est le règne de Dieu, un Dieu qui combat les puissances des ténèbres, qui se manifeste notamment par cette délivrance que vient d'opérer Jésus. Le Christ manifeste sa victoire par ce biais, puisque la possession démoniaque, c'est l'expression la plus dramatique, la plus concrète, la plus visible de la domination de Satan sur les hommes. Et le Christ manifeste sa victoire par cette délivrance qu'il accomplit avec puissance et avec autorité. On voit là toute la force de l'argumentation de Jésus qui ne peut que laisser sans voix. Il leur a cloué le bec, aux pharisiens, et il continue son argumentation avec une petite parabole qui montre sa victoire sur le diable et sur le péché. La victoire du royaume de Dieu dont Jésus est l'ambassadeur. La délivrance du muet possédé n'est que le reflet d'une délivrance beaucoup plus grande qu'est venu opérer Jésus sur cette terre. C'est sa victoire contre Satan, sa victoire sur le mal, sur la malédiction du péché, sa victoire sur la mort. C'est ce qu'il décrit par cette petite parabole des versets 21 et 22. Il présente Satan comme un homme fort, bien armé, qui tient en son pouvoir sa maison. Satan exerce effectivement une domination par la tentation, la séduction, l'aveuglement, l'endurcissement, l'idolâtrie, puis les pratiques associées, spiritisme, magie, divination, par l'oppression, etc. Alors j'ai beaucoup parlé de Satan et des démons parce que le passage du jour en parle, mais Satan n'est pas le héros de l'histoire, loin de là. On parle d'ailleurs très peu de Satan dans la Bible. Ce n'est qu'un personnage périphérique, il ne fait pas partie du message central. C'est pas lui le héros. Le seul véritable héros, c'est Jésus. Jésus, fils de Dieu, envoyé sur terre justement pour terrasser et anéantir Satan. C'est Jésus le héros. C'est Jésus l'homme plus fort que l'homme fort, qui le dompte et le désarme, au verset 22. C'est un vocabulaire très guerrier qui est utilisé et qui témoigne du combat spirituel. Alors Jonas nous en a déjà parlé dans sa prédication sur Éphésiens, alors je vous invite à les écouter, les réécouter sur le site internet de l'Église, je ne vais pas m'étendre sur le combat spirituel parce que cette parabole insiste surtout sur la victoire de Jésus. Cette victoire de Jésus s'est réalisée en plusieurs étapes. Jésus a résisté aux attaques de Satan dans le désert lorsqu'il le tenta pendant 40 jours. Vous pouvez lire ce récit en Luc 4. Puis Jésus, par son ministère public, a fait reculer le royaume de Satan en chassant des démons, par exemple, comme c'est le cas dans ce passage, en invitant ses contemporains à se repentir, à changer de camp, en fait. L'établissement du royaume de Dieu s'est fait au détriment du royaume de Satan, et c'est toujours le cas. Mais le point d'orgue de cette victoire, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Alors vous pouvez vous demander, mais comment la mort de quelqu'un peut-elle être une victoire? Eh bien, c'est justement ça le cœur de l'Évangile. Le constat, c'est que le péché gangrène le monde. Satan opère son œuvre de destruction en chacun de nous. Il a corrompu l'humanité. Il suffit de regarder autour de nous, d'allumer la télé, d'ouvrir un journal et de regarder les informations récentes pour voir l'œuvre de destruction et de corruption qu'opère le diable. Et Dieu ne peut pas laisser ce crime impuni. Il ne peut pas juste effacer l'ardoise, ce ne serait pas juste. Puis vous vous souvenez, Satan est décrit dans la Bible comme un accusateur, l'accusateur des élus. Il cherche à obtenir la condamnation des hommes. Il cherche à perdre les hommes. Et même devant Dieu, il cherche à les accuser. Jésus a donc payé le prix de nos péchés en mourant à la croix, parce que ce prix, nous ne pouvions pas le payer. Lui s'est offert en sacrifice pour nous racheter. Il est mort, il a été enseveli, et il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu la malédiction du péché. Et Jésus est décrit comme un avocat auprès du Père, comme si au tribunal de Dieu, Jésus intercédait pour nous en rappelant au Père que sa justice a été satisfaite, puisque Jésus a subi la juste condamnation et la peine. Satan ne peut plus accuser, et ses armes ont été réduites à néant. Alors il est vrai qu'on n'a pas le sentiment aujourd'hui que Satan est lié, puisqu'il exerce encore son pouvoir, mais sa condamnation est arrêtée. Par la venue de Jésus dans le monde, son royaume a été pillé. Il a été battu à plate couture. Et enfin, la victoire définitive et éternelle, ce sera lorsque Jésus reviendra, et que Satan et tous ceux qui le suivent seront jetés dans les temps de feu, qu'il sera lié pour l'éternité et qu'il sera définitivement mis hors d'état de nuire. En Colossiens 2,15, nous lisons à propos de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix est une victoire. Jésus termine sa démonstration avec cette morale, un peu comme la morale qui conclut les fables de La Fontaine, vous voyez. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il y a deux camps. Nous sommes soit dans l'un, soit dans l'autre. Il y a deux camps, il n'y a pas de no man's land entre les deux, il n'y a pas de zone démilitarisée. Moi j'aime beaucoup la Suisse, mais le rôle, la posture de la Suisse au niveau spirituel, ça n'existe pas. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, c'est que nous faisons celle du diable. Et Jésus dit cela aux pharisiens. Alors c'est vraiment un camouflet que reçoivent les pharisiens. Ils prétendaient que Jésus venait de Satan, et Jésus leur prouve par A plus B que ce sont eux-mêmes qui font l'œuvre de Satan parce qu'ils rejettent Jésus. Jésus a totalement renversé la situation. Vous avez peut-être vu ces publicités pendant l'Euro. Alors un fast-food que je ne citerai pas affichait des publicités avec des supporters de foot qui tenaient des écharpes divisées en deux. Alors il y avait Fraland pour France, England. Il y avait un autre supporter qui tenait une écharpe Polmanie pour Pologne et Germanie. Vous voyez l'idée ? Avec un slogan « Venez comme vous êtes ». Comme si on pouvait être neutre et ne pas choisir son camp. Mais on ne peut pas être neutre au niveau spirituel, ce n'est pas possible. Face à l'invitation de Jésus à le suivre, à se repentir, à accepter son pardon qu'il nous offre à la croix, on ne peut pas avoir une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de troisième voie. Jésus affirme très clairement que les deux royaumes sont totalement opposés. Mais le diable cherche tout de même à exercer son influence démoniaque sur les chrétiens. Sans pouvoir démoniser un chrétien, bien sûr, le diable peut tout de même attaquer, oppresser, opprimer un chrétien. Il nous est décrit comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un lion qui rôde autour des chrétiens car il rêve de les détourner de Dieu, de les détourner de la vérité. Un chrétien peut être influencé par le diable et d'une certaine manière faire l'œuvre du diable. C'est ce qui nous arrive à chaque fois que l'on pêche, finalement. À chaque fois que l'on pêche, on s'oppose à Dieu. Certains péchés comme l'amertume, la haine, la rancune tenace peuvent ronger l'existence du croyant et donner accès au diable. Et quand ces péchés ne sont pas confessés et qu'ils demeurent présents dans la vie du croyant, ils peuvent entraîner une certaine vulnérabilité. Nos péchés sont comme des portes ouvertes au diable. D'où l'importance de la confession des péchés, comme on l'a fait ce dimanche et comme on le fait chaque dimanche, mais que l'on peut faire quotidiennement. On confesse ses péchés pour se mettre en règle avec Dieu, mais aussi pour ne pas donner accès au diable. L'homme fort du verset 21 a été désarmé parce que nous pouvons confesser nos péchés et être certains d'être pardonnés parce que Jésus est mort et s'est ressuscité. Le démon ici tenait sa victime muette, comme s'il l'empêchait de confesser ses péchés et de professer la vérité. Ce mutisme la rendait esclave, ne restons pas muets. Le diable peut agir aussi en insinuant des pensées pernicieuses aux chrétiens. Je vous donne des exemples de pensées qui vous ont peut-être traversé l'esprit vous aussi un jour ou l'autre. Tu es un mauvais chrétien, tu n'es pas aimé de Dieu, ton péché est grave. Dieu ne peut pas te pardonner. Tu es inutile. Tu ne vaux rien. Tu es faible. Tu ne peux pas y arriver. Etc. etc. Menteur et tricheur comme il est, le diable se plaît à déstabiliser, à tromper, à aveugler. D'où l'importance de connaître les Écritures, la Bible, pour rétablir la vérité dans notre esprit, pour ne pas rester muet comme ce démonisé. Jésus, lorsqu'il a été tenté par le diable en Luc 4, n'a fait que répondre par l'Écriture. Le diable le tentait en tordant même le sens de la parole de Dieu. Et Jésus lui répondait simplement, il est écrit, il est écrit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus répondait au diable en réaffirmant la vérité par les Écritures. Grâce à la Bible, Satan est désarmé. Alors quand on est assailli par des pensées du genre, tu n'es pas aimé de Dieu, on peut répondre, c'est faux. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle preuve d'amour! Ton péché est grave. Dieu ne peut pas te pardonner, c'est faux, Dieu te pardonne. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Tu es inutile, tu ne vaux rien, c'est faux. Jésus a donné sa vie pour toi tellement tu as de valeur à ses yeux. Il est écrit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Quelle place de choix d'être enfant du roi. Tu es faible, tu n'y arriveras pas. C'est faux, enfin, c'est vrai, tu es faible, mais tu vas y arriver. Il est écrit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Dans tous ces combats, nous avons déjà la victoire, parce que Jésus l'a acquise pour nous, et il combat avec nous. Mais nous sommes évidemment dans l'attente de sa victoire finale et définitive lorsqu'il reviendra juger la terre. Le message d'aujourd'hui vous a peut-être choqué. Il a peut-être été dur à entendre. On aimerait que ce soit plus nuancé, moins radical. Mais Jésus n'est pas venu sur terre pour être populaire. Il est venu pour annoncer la vérité qui vient de Dieu, pour que l'on fasse le bon choix. Que l'on choisisse le bon chemin, celui qui mène à la vie éternelle, pour qu'on choisisse le bon camp, le bon royaume. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire encore aujourd'hui. Choisir de suivre Jésus en se repentant de ses péchés et être associé à la victoire que Jésus a acquise à la croix. Par ce choix, vous pouvez passer de la mort à la vie, et c'est une sacrée bonne nouvelle. Alors pour ceux d'entre nous qui ont déjà fait ce choix, restons fermes dans notre foi, ne cessons pas de lutter contre le péché dans nos vies, car il donne accès au diable. Ne cessons pas de proclamer les vérités de Dieu contenues dans la Bible. Dieu nous associe à l'établissement de son royaume. Ayons donc un regard rempli d'amour envers ceux qui nous entourent et qui ne le connaissent pas, y compris pour ceux qui nous semblent désespérés. Luc n'a de cesse de montrer que Jésus va vers les pécheurs, les marginaux. N'ayons pas peur de suivre l'exemple de Jésus, nous qui sommes ses ambassadeurs. À travers nous, c'est le royaume de Dieu qui progresse. Ne soyons pas muets. Par notre hardiesse à proclamer l'évangile, nous avons le pouvoir de faire grandir son royaume par la conversion des cœurs. Alors c'est à Dieu, bien sûr, que revient la gloire. Mais il se plaît à nous utiliser pour le faire grandir. C'est en ce sens que je disais que nous ne sommes pas spectateurs du combat spirituel, mais que nous sommes acteurs. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Le royaume de Dieu s'approche par notre intermédiaire. Le royaume de Dieu progresse par des vies transformées qui rejoignent son camp d'une certaine manière. Et nous pouvons participer à cette œuvre. On prie. Dieu et Père, nous sommes émerveillés de voir la puissance de l'argumentation de ton Fils pour répondre aux objections qui lui étaient faites, pour démontrer de manière évidente qu'il était revêtu de la puissance divine, qu'il a inauguré par sa venue sur terre le royaume de Dieu et qu'il a vaincu le diable en mourant à la croix. Merci de nous avoir donné accès à ce royaume par l'intermédiaire de Jésus. Merci d'avoir réduit à néant les armes du diable qui ne peut plus nous accuser. Remplis-nous de courage, Père éternel, de force, de sagesse, pour proclamer ce message autour de nous. Affermis notre foi pour que nous ne craignions pas de nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Utilise-nous, utilise notre Église, ton Église, pour l'avancée de ton royaume. C'est au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions. Amen.